Session théologique de l'après-midi par le Père Philippe à Saint-Jourdain le 8 août 1988.
Je lis les deux questions. Alors, cette question, qui est évidemment très importante, je suis tout à fait d'accord, qui serait plus d'ordre critique. Donc, un groupe demande si vous pouviez expliciter les interactions possibles entre foi et science moderne. Alors, on va préciser quelques points. Je ne serai pas exhaustif. Si parmi vous, il y en a un ou l'autre qui a des questions très précises là-dessus, je lui demanderai de l'expliciter. Vous voyez ? Parce que les interactions entre foi et biologie, entre foi et physique, entre foi et astronomie, sont très diverses. La foi est une. Les sciences sont multiples. Hein, déjà. Et dans les sciences, vous avez les sciences biologiques. Vous comprenez que celles-là sont plus immédiatement en connexion avec la foi. Pourquoi ? Parce que la foi regarde Dieu. Dieu se révélant. Dieu me parlant. Dieu m'enseignant. Tout ça à la fois. C'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui m'enseigne, c'est Dieu qui se révèle. Et la foi regarde également l'homme. Il montre le lien entre l'homme et Dieu. Donc, si la foi est une, la foi dans son exercice est multiple. La foi est reçue, elle nous parle de l'homme, et elle est reçue dans l'homme. Les sciences sont également dans l'homme. Et les sciences peuvent nous parler de l'homme en tant que vivant, en tant que, je dirais, exerçant sa liberté, ses opérations multiples. Alors c'est les sciences psychologiques, les psychologiques. Regarde tout ça. Ou les sciences politiques. Vous comprenez que toutes ces sciences-là sont beaucoup plus immédiatement en connexion avec le point de vue de la foi que les sciences physiques regardant la Terre, les astres et à Allons encore plus loin. L'origine du monde. L'origine de l'homme. L'origine de la vie. Les sciences vont s'intéresser à tout ça. Et que ce soit qu'un sujet d'un vaste. Première affirmation. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la foi et une conclusion scientifique vraie. Hein, la première affirmation, il ne faut jamais l'oublier. Il ne peut jamais y avoir de contradiction. Il peut y avoir des apparences de contradiction qui proviennent du fait ou que la foi est trop liée dans son expression à un certain langage symbolique et mythique. Et que, au niveau de l'expression, cette expression symbolique, il peut y avoir comme une sorte de contradiction avec la donnée scientifique. Les données scientifiques. C'est pas le même langage. La parole de Dieu toujours nous est donnée toujours dans un langage symbolique. Toujours, plus ou moins. Et si c'est pas symbolique, nous dirions analogique. Tandis que la science n'est pas un langage analogique. C'est un langage précis, logique, et qui cherche une précision toujours plus grande. Donc je crois qu'il faut bien distinguer les deux aspects. Pas possibilité de contradiction. Pas possibilité de contradiction au niveau proprement de la vérité scientifique et de la vérité de foi. Apparence de contradiction au niveau des expressions. On verra ça. Facile à voir. Vous voyez, quand il est dit, par exemple, que Dieu a modelé le corps de l'homme. Que Dieu a pris la côte de l'homme pour former la femme. Un savant se cassera la tête en disant rien de tout. Ça, pour le croyant, ça a une signification. Pour le scientifique, rien du tout. Donc, apparence de contradiction. Au niveau de l'expression. Pas au niveau de la réalité. Bon, je crois que c'est ça. Déjà là, vous déblayez pas mal le terrain. Parce que la plupart du temps, c'est au niveau de l'expression qu'on met les oppositions. Alors que si on regarde bien la signification profonde de ce que la foi affirme et de ce que la science affirme, il n'y a pas de contradiction. Et il ne peut pas y en avoir. De temps en temps, pour des raisons apologétiques, le croyant affirme plus que ne dit la foi. Et le savant en ajoute plus que ne dit la science. Alors, au niveau apologétique, il peut y avoir des contradictions. Ce sont des contradictions au niveau rhétorique. Puisqu'au fond, l'apologétique est rhétorique. C'est de la rhétorique. Plus ou moins bonne. C'est de la rhétorique. Il y a des bonnes apologétiques et des apologétiques moins bonnes. Mais c'est de la rhétorique. C'est pas étonnant qu'au niveau rhétorique, il puisse y avoir des contradictions apparentes. Alors, pourquoi, je pousse un peu plus, hein, c'est les deux premières affirmations, ça, C'est très très important de comprendre ça. Pourquoi ne peut pas y avoir de contradiction entre ce que la science affirme et ce que la foi affirme? Premièrement, c'est que la science recherche la vérité. La foi nous donne la vérité. Deux vérités d'un caractère différent. La foi, c'est Dieu qui nous infuse, qui nous donne, qui nous communique gratuitement cette vérité. Cette vérité divine. Et non pas acquise, donc infuse. La science recherche la vérité, non pas à partir d'une illumination divine, mais à partir de l'expérience. La réalité. Or, le croyant sait que le monde a été créé par Dieu et que c'est le même Dieu qui crée le monde et qui nous communique sa lumière dans la foi. C'était deux dieux différents. Il y aurait le démiurge et puis le Dieu Père révélateur, puisque ça a été affirmé ça dans certaines positions. Alors on aurait le Dieu Père qui se révèle à nous et le Dieu Créateur qui regarde l'univers et qui crée l'univers. Donc, il y aurait le Dieu qui parle à l'esprit et le Dieu qui façonne les corps, l'univers. Si c'était deux dieux différents, là, le démiurge, là, le Dieu Père, il pourrait y avoir maldonne. Vous voyez ? Puisque le Dieu démiurge aurait son autonomie. Puis le Dieu Père, la sienne. Vous voyez, c'est ce que vous retrouvez dans les positions dites du dualisme, qui disent la matière n'a pas été créée par Dieu. La matière est mauvaise, elle n'est pas créée par Dieu. Alors vous avez le Dieu Père, il faudrait dire ça, le Dieu Créateur, Père de l'univers bon. Et puis vous avez un principe du mal, celui qui est source de la matière et de tout le mal. Donc vous avez l'indualisme. Dans ce dualisme, il n'y a pas d'unité entre les deux. Le Dieu bon et le Dieu du mal ne s'entendent pas par définition. Ils ne se retrouvent pas dans un dialogue commun. Il n'y a pas de rencontre. De sorte que l'étude du mal et l'étude du bien peuvent très bien ne pas coïncider. Et même normalement ne coïncident pas. Ils sont en opposition. Mais ça, je le refuse, philosophiquement parlant. Et je le refuse, non seulement philosophiquement parlant, mais au point de vue chrétien. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de dualisme. Donc, je reviens à ça. Le Dieu Père et le Dieu Créateur de l'univers. Et je dis, ce Dieu est unique. Si ce Dieu est unique, nécessairement, la sagesse de Dieu va se refléter dans l'univers et elle va se refléter dans l'esprit. Et donc la connaissance directe de la sagesse de Dieu par la foi et la connaissance de la sagesse de Dieu par l'univers, il ne peut pas y avoir de contradiction. Il y a tout simplement du plus et du moins. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Oui, ça c'est la grande raison. C'est que le Dieu de mon intelligence, c'est le Créateur. Et le Dieu qui me communique la foi, c'est le Dieu de mon intelligence. Donc il ne peut pas y avoir deux vérités. Une vérité révélée et une vérité scientifique. Alors faisons attention, hein. Quand je dis qu'il ne peut pas y avoir deux vérités, il ne peut pas y avoir deux vérités totalement hétérogènes. Il ne peut pas y avoir deux vérités en opposition. Mais il y a deux vérités analogiquement diverses. Autres, ayant cependant quelque chose de commun, c'est toutes les deux sont vérités. Donc, vous voyez, je reviens à la question posée. Entre la foi et la science, il ne peut pas y avoir de contradiction. Ça, il faut en avoir la certitude et l'évidence. Si vous ne l'avez pas, j'espère que vous l'aurez à la fin de la session. Il ne peut pas y avoir. Essayez de comprendre, si vous avez une petite gêne là-dedans, essayez de comprendre d'où vient cette gêne. Faites une petite psychanalyse de votre intelligence. Ça, c'est pas mauvais, pas besoin de divan. Faites une petite psychanalyse de votre intelligence. Comment j'arrive à ça? Comment, à cause de quoi je me suis heurté devant elle? Bon, très bien. Il faut arriver à ça. Un croyant doit pouvoir, en tant qu'homme croyant, avoir l'évidence qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre la recherche scientifique et ce que la foi lui dit. Si vous n'avez pas l'évidence de ça, je trouve qu'il y a un petit truc dans le coin, il y a eu un meuble qui s'est mal déplacé et qui coince. Vous avez une vertèbre intellectuelle et d'intelligence qui coince et qui fait que ce n'est pas tout à fait juste. Alors il faut remettre ça d'aplomb. C'est très nécessaire ça, parce que c'est ça qui donne la liberté aux croyants. Mais ça ne gêne pas la science. Voulez-vous que ça le gêne? On ne peut pas être en contradiction. Absolument pas. Mais certaines conclusions scientifiques qui ne sont plus scientifiques, qui sont de la rhétorique, qui sont de la propagande, qui sont de l'apologétique, peuvent très bien être en contradiction avec la donnée de foi. Donc, il faut un petit coup de critique. C'est pour ça qu'il vaut toujours beaucoup mieux demander à un grand savant qu'est-ce que la science dit que de regarder ça dans un dictionnaire scientifique ou même dans une revue qui se dit très scientifique et qui quelquefois est très apologétique au niveau de la science. Important ça. C'est vrai, on peut quelquefois regarder certaines revues pas très scientifiques qui disent des choses intéressantes, qui éveillent quelquefois bien plus que des données purement scientifiques. Ça éveille ça. Un jour j'ai lu comme ça dans une revue mi-scientifique que les Russes jamais su. J'ai essayé d'interroger, jamais su. C'était authentique ou pas. Que les Russes étaient arrivés à couper la tête d'Azor, et les deux têtes Azor et Médor. Alors on avait recoupé, on avait mis la tête d'Azor sur le corps de Médor, et l'inverse. Puis on avait crié, quand l'opération était bien faite, Azor ! Est-ce que c'est la tête qui a répondu ou c'est le cœur ? Eh bien c'est le cœur. La Est-ce que c'est un canular? Est-ce que c'est une découverte? Est-ce que c'est scientifique? C'est possible. On fait des choses très étonnantes aujourd'hui. On l'a pas encore fait pour l'être humain. Voyez? Je convoite votre tête. Si vous voulez, nous allons pouvoir entrer 8 jours à l'hôpital. Vous allez prendre la mienne, moi je vais prendre la vôtre, et puis ça ira. On fera un mélange après. Ça fait rien. Quand on en aura tel, ça changera. Les saints du paradis se disputeront le patronage. Mais on ne saura pas. Ça peut être un canular. Ça peut être vrai. Pas pour l'homme, je crois. Pas encore. Mais les vraies conclusions scientifiques ne peuvent pas être en contradiction avec la foi. Alors, où il y a des apparences de contradiction, c'est dans les expressions, dans les apologétiques, ou dans les applications. Je prends l'exemple, exprès, un exemple brûlant. Référence avec l'instruction du cardinal Ratzinger sur la bioéthique des vins brûlants. Vous voyez bien, il ne s'agit pas de condamner la science. Il s'agit de dire, telle application ne peut pas convenir à l'éthique humaine. Uniquement ça. L'Église gardienne de l'homme, gardienne de l'éthique humaine, dit, telle application scientifique et technique, si intéressante qu'elle soit, ne convient pas à l'éthique humaine. La pilule. Je me souviens, quand on a découvert la pilule, un de mes amis biologistes de Paris m'a dit, c'est extraordinaire comme découverte. Merveilleux comme découverte. Étonnant, scientifiquement parlant. Il a tout de suite ajouté, c'était avant que l'Église dise quelque chose, que fera l'Église ? Parce qu'une telle découverte exigerait que l'humanité soit une humanité contemplative. Pour user de cela d'une manière qui soit vraie. Oui, l'usage. Tout à fait autre chose. Quand l'Église condamne telle ou telle chose, du moins dit « Non, vous ne pouvez pas », c'est que l'Église parle au nom de l'éthique. Et non pas au niveau de la science, et non pas au niveau de la technique, au niveau de l'éthique. Et au nom de l'éthique, l'Église réclame telle ou telle position qu'elle considère comme étant impliquée dans une éthique humaine. Et je dis bien une éthique humaine. Je ne parle pas seulement pour une éthique chrétienne, mais pour une éthique humaine, en conformité avec une éthique humaine. Le regard de l'Église allant très loin dans l'ordre de l'éthique. Alors que le savant et le technicien au service de la science ne regardent pas l'éthique. Mais l'efficacité, est-ce que ça réussit ou pas? Pas le critère. L'Église ne regarde pas ça réussit ou ça réussit pas. Le critère de l'éthique de l'Église n'est pas l'efficacité. Le critère, c'est l'amour. Il n'y a pas d'éthique sans amour. Et dès qu'on touche ou qu'on diminue l'exigence de l'amour humain, à ce moment-là, l'Église dit non, vous ne pouvez pas. C'est ça qu'on ne comprend pas assez, vous voyez. On dit l'histoire de Galilée. L'histoire de Galilée, je ne vais pas entrer dedans parce que c'est une... Mais je connais un professeur qui était à Fribourg, qui était italien, qui était chimiste. chimie organique, qui avait étudié de très très près toute l'histoire de Galilée. Il m'a dit, la condamnation a été très très mal faite, au point de vue de l'expression. Parce qu'au fond, ce que l'Église condamnait, c'était qu'on se serve d'une conclusion scientifique pour interpréter l'Écriture. Oui, l'application. Et donc, qu'on dit, c'était, si vous voulez, le point de vue du modernisme. Et c'était cela que l'Église condamnait. Mais l'Église ne savait pas très bien à ce moment-là ce que c'était que le modernisme. Alors, elle a condamné brutalement la conclusion, sans préciser qu'il ne s'agissait pas de la conclusion scientifique, mais qu'il s'agissait de la relation de la conclusion scientifique avec la révélation. Et qu'on interprétait la révélation en fonction de la donnée scientifique, ce qui est évidemment incondamnable. Mais pas du, c'est pas du tout le même motif, vous voyez. Et constamment, c'est comme ça, quand on regarde de près. Bon, je n'insiste pas plus. S'il y avait d'autres questions, et des questions plus brûlantes, ceux qui les ont vraiment pourraient noter le cas particulier. Et à partir de ce cas particulier, on pourrait essayer de répondre. Vous pouvez toujours, hein, je vous l'ai dit, mettre vos questions ici. C'est mieux quand il y a un carrefour, mais entre cette conférence-ci et la conférence de l'après-midi, du soir, il n'y a pas de carrefour. Si vous avez telle ou telle question brûlante, posez-la pour pouvoir dormir. L'Église a pitié de votre sommeil. C'est l'éthique, ça. La pitié de votre sommeil. Alors, si vous deviez garder votre objection jusque demain et qu'elle serait brûlante, ça n'irait pas. Donc, vous avez le droit de poser. Je jugerai s'il faut y répondre ou pas y répondre. Bon, alors nous allons continuer ce petit effort de ce matin. C'est dans ce sens-là. Tout à fait dans ce sens-là. Toute science est particulière. Seule la philosophie se veut exhaustive. Ah, ici, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Très intéressant à bien comprendre. Et dans le monde d'aujourd'hui, particulièrement important, puisque nous vivons une idéologie positiviste terrible, qui est l'idéologie la plus terrible qui soit. C'est l'idéologie positiviste. Elle est terrible parce qu'elle n'a pas d'odeur politique. Le marxisme a une odeur politique. Le freudisme aussi. Du moins, en partie. Individualiste, si vous voulez. Tandis qu'au contraire, le point de vue de l'idéologie positiviste, ça n'a pas d'odeur. Un jour, Lénine a dit, il faut que le marxisme évolue en fonction de la science. Ce jour-là, Lénine relativisait le marxisme et le mettait en dépendance du positivisme. Ce qui explique les liens entre l'Est et l'Ouest. C'est quand même très intéressant d'avoir qu'à un moment donné, Lénine a dit ça. Le marxisme doit évoluer en fonction du positivisme. Vous voyez, c'est comme si l'Église avait entériné une fameuse parole de Monod dans les grandes rencontres internationales de Genève. Quand j'étais à Fribourg, je m'intéressais toujours à ces rencontres internationales de Genève. Un jour, Monod a dit, il faut que l'éthique se modifie en fonction des progrès de la science. Le jour où Monod a dit ça, il faisait que l'éthique n'était plus philosophique et qu'on avait affaire à une éthique positiviste. Pour le positivisme, ce sont les conclusions scientifiques qui mesurent l'activité de l'homme, qui déterminent l'activité de l'homme. Alors, en face de ce positivisme régnant, je ne sais pas combien comme statistiques il y aurait aujourd'hui, mais je crois qu'on arriverait à des chiffres assez forts. Je serais assez enclin de dire que 95% des savants aujourd'hui sont positivistes. Des théologiens aujourd'hui sont positivistes. 90% des exégètes aujourd'hui sont positivistes. Petite enquête, hein, si vous voulez faire un article virulent, qui fasse du pétard, faites ça. Mais une enquête bien faite, hein. Ça n'a pas d'odeur, positivisme. Ça pénètre les facultés théologiques. Je vous affirme, quand on a vécu un peu dans une faculté au niveau universitaire, faculté théologique, on est constamment en présence de raisonnements positivistes. Un directeur de thèse au niveau théologique dit une thèse vaut en fonction de sa méthode. C'est du positivisme. Peu importe ses conclusions. C'était dit froidement, personne n'a bougé. Moi j'étais philosophe, alors je ne pouvais pas bouger. J'écoutais. C'est intéressant. Et réfléchissez sur cette affirmation. Une thèse de théologie vaut en fonction de sa fidélité à la méthode, la conformité à la méthode. Si la méthode est bien suivie, cette thèse doit passer. Je ne vous dis pas sur quel sujet. Mais c'était assez. Et c'était une thèse de morale. Oui, c'est pas d'assez loin. Bon, on est en plein positivisme. Je ne sais pas si le marxisme diminue. Ça dépend si vous avez des enquêtes faites par des gens de droite ou des gens de gauche. Parce que vous avez des apologétiques différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que le positivisme ne diminue pas tellement. J'ai vraiment sa vision. Je serais très heureux qu'on me dise l'inverse. Alors, en face du positivisme, qui met la science au-dessus de tout, nous avons une logique positiviste qui est la logique mathématique. C'est une logique positiviste. C'est plus une logique philosophique. C'est aussi intéressant à noter, parce que c'est important à voir ça. Nous devons essayer de comprendre comment les sciences sont particulières. La philosophie peut-être une sagesse. Si la philosophie est sagesse, elle n'est plus particulière. Qui dit sagesse, dit qu'on atteint quelque chose d'ultime. Donc elle atteint la fin ultime de l'homme. Autrement, elle ne serait pas sagesse. Si la fin ultime de l'homme, elle n'atteint plus quelque chose de particulier. Elle est au moins ouverte vers un infini. Parce que qui dit particulier dit quelque chose de limité, dit quelque chose de fini. Qui dit sagesse dit quelque chose d'infini. Et la foi est sagesse. Pourquoi ? Participation à la sagesse de Dieu. Elle est sagesse. Elle est contemplative. Elle a quelque chose d'infini. Vous êtes d'accord là-dessus ? Première fois. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus ? Notez, puis vous demanderez au carrefour. C'est intéressant de voir ça. Première chose. Il faut d'abord être d'accord là-dessus. Un positiviste ne peut pas être d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr. Puisque c'est la science qui mesure tout le reste. Vous voyez tout de suite que seule la philosophie regarde l'homme. En tant qu'il implique esprit et corps. Une âme spirituelle et un corps. La foi regarde l'homme en tant imago, image de Dieu. La science, les sciences ne regardent pas l'homme dans sa totalité. Même les sciences dites humaines regarde le comportement de l'homme. Regarde le conditionnement de l'homme. Mais ne regarde pas l'homme en tant qu'esprit. Le conditionnement, c'est les effets. Ce qui est mesurable. Donc ne touche pas ce que c'est que l'esprit. Ça, il faut comprendre. Si je parle de l'homme, je regarde l'homme en tant qu'il est mesurable, et non pas l'esprit. Et c'est très vrai. Un psychologue, au sens scientifique, ne peut pas regarder ce que c'est que l'esprit, ne peut pas regarder ce que c'est que l'âme spirituelle. L'âme spirituelle, seul le philosophe peut en parler. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, dans certains milieux, des milieux très bien, on dit ne parlez plus de l'âme humaine, de l'âme spirituelle. Ça n'a plus cours sur le marché. Vous voyez, trace du positivisme. Pas longtemps, hein. Quelques mois, on m'a dit ça. Vous pouvez parler de la personne, mais surtout plus de l'âme. Ça n'est plus court. Trace du positivisme. La personne, je peux la mesurer. Ouais, je peux mesurer certains aspects de la personne. L'âme spirituelle ne peut pas la mesurer. Vous ne l'avez jamais vue. Moi non plus. Donc, puisque vous ne l'avez pas vue, vous ne l'avez pas mesurée, ça n'existe pas. Donc n'en parlez plus, ça n'a plus court sur le marché. Oui, ça vous fait tout de suite comprendre la différence entre le point de vue des sciences particulières, mesurables, qui aboutissent à des lois. La loi, ce sont des relations nécessaires. tel autre suivra. Une relation nécessaire, mais constante. Tandis qu'au contraire, le philosophe recherche les causes, les principes. Voilà la grosse différence. Il ne faut pas confondre cause et loi. La loi est une relation. Le principe et la cause, c'est quelque chose d'absolu. La relation, par définition, n'est pas un absolu. Puisqu'ils sont deux. Ils sont deux à se regarder. Si A, P, relation nécessaire entre les deux. Il y a deux termes. Tandis que la cause et le principe, c'est quelque chose d'absolu. De premier. Qui dit principe dit quelque chose de premier. Ce au-delà de quoi je ne puis pas aller. Ça l'a découvert dans le principe. La philosophie découvre les principes et les causes. Alors que la loi, les sciences cherchent les lois, établir des lois. Des lois nécessaires, mais des lois. Toute loi est particulière. Toute loi implique une relation. Tandis qu'au contraire, la cause, elle a quelque chose d'infini, puisqu'elle est première. Elle est relative à rien. Tout le reste est relatif. L'effet est relatif à la cause. Mais la cause ne dépend pas de l'effet. Alors, une fois que vous avez compris ça, ça on peut assez facilement le comprendre. Hein. Encore une fois, si on n'est pas trop positiviste, si on a encore un peu de sang humain dans les veines. À ce moment-là, on peut arriver à comprendre encore cette distinction. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez tout de suite vous poser la question. Il y a des questions qui sont des questions philosophiques et que la science ne pourra jamais traiter. C'est la question de l'origine. Et c'est la question de la fin ultime. Alpha, oméga, les deux extrêmes. La science traitera l'entre-deux. Mais les deux extrêmes impossibles. Pourquoi les deux extrêmes? Sont en dehors du domaine scientifique, en dehors de la méthode scientifique. N'importe quelle méthode. Je parle de l'origine de l'homme, de l'origine de l'univers, de l'origine de la vie. Et pour compléter avec la lecture du réfectoire, de l'origine de la famille. Qui est l'origine de l'homme. Les sciences ne peuvent pas saisir l'origine ni la fin. Pourquoi? Parce que précisément, l'origine, c'est un principe. C'est une source. Et la fin dernière, c'est ce qu'il y a d'ultime. Au-delà de quoi je ne peux pas aller. Dans l'absolu. Ça demande à penser à ça. Il faut y réfléchir, ça ne faut pas y aller trop vite. Je le prends d'une autre manière, qui sera peut-être plus facile à comprendre. C'est que la science, alors je le prends en termes heideggériens, ça vous facilitera beaucoup. Le climat étant heideggérien, c'est plus facile. Alors je vais le traduire en termes heideggériens. Heidegger dit... La science étudie les étants. Les étants. La philosophie étudie l'être. Les étangs, c'est tout ce qui est mesurable. Votre corps est un étang. Si votre âme existe, est-ce qu'elle est un étang ? Non. Votre âme spirituelle n'est pas un étang. Elle est principe de vie. L'étang, c'est la manière dont une réalité nous est donnée, se présente à nous. L'étang est toujours lié au devenir. La science étudie le devenir et les conditions dans lesquelles ce devenir peut exister. Mais à côté du devenir, il y a l'être. Ce devenir, il existe. Il est. Alors, est-ce que c'est l'être qui est avant le devenir ou le devenir qui est avant l'être ? Voyez, on touche là à un problème fondamental de toute philosophie. L'étang est l'être. Le devenir est l'être. Le devenir, c'est le mouvement. Ce qui change. Toutes les réalités que vous constatez, elles changent. Avant l'été, après l'été. Ça change. C'est sûr. Tout change. Pas de pareil. Tout coule. Tout change. Tout ce que je constate change. Voilà ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire que tout change. Il faut dire tout ce que j'expérimente immédiatement, tout ce que je peux toucher change. Et tout ne change pas. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous constatez, ça change. C'est le devenir. Au-delà du devenir, il y a le fait que ce devenir existe. Il est. Mais vous constatez ça tout de suite en vous. Depuis 10 ans, vous avez quand même changé. Surtout si on est près de la vingtaine, on a beaucoup changé. Si on est près de 70 ans, 10 ans, c'est pas grand-chose. C'est vrai, ça. Mais c'est toujours vous. Donc en vous, vous constatez quelque chose qui demeure et quelque chose qui change. Je crois qu'on peut tous faire cette constatation. Quand vous vous réveillez le matin, vous ne dites pas « Ah, est-ce que je suis la même personne qu'hier ?» Ah, ça te pose un problème, ça. Est-ce que je suis la même personne ? Ou est-ce que du fait même que j'ai dormi, ben oui, tout mon être a changé. Non, vous ne posez pas la question. Et quand vous commencez à vous la poser, ça devient dangereux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous précipitez auprès de quelqu'un et dites, mais est-ce que je suis la même personne qu'hier soir ? Mais bon, on me dit, mais oui. T'inquiète pas, c'est la même personne. Non, mais que dire, va te recoucher. Parce que ça ne va pas, donc il vaut mieux aller se recoucher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le devenir et l'être, il faut faire la distinction de ça. La philosophie cherche toujours à approfondir ce qui est. Tout par rapport à ce qui est. La science étudie les changements. Les variantes et les constantes dans le changement. Ça, c'est plus facile peut-être à saisir. Vous voyez, on saisit tout de suite le point de vue du devenir. La science ne peut étudier que les conditions sine qua non du devenir. Mais en chimie, c'est très net. Hein. Et en cuisine aussi, vous savez. En cuisine, c'est quand même une expérience du devenir. Vous apporte un poulet qui vient d'être... Bon, vous commencez par le plumer, vous commencez... Il devient. Au bout d'un certain temps, on ne le reconnaît plus du tout. Quand il est dans votre assiette, il y a eu des changements. Et quelquefois, un changement très radical, grâce à la cuisson, grâce à l'art, ça a changé complètement. Vous n'y reconnaissez plus rien du tout. Ah, c'est mon poulet. C'est votre poulet. Complètement changé. En réalité, fondamentalement, c'est toujours votre poulet. Les parties les plus dures demeurent. Vous avez reconnu une dent du poulet et vous la reconnaissez à la fin. Il y a des choses qui demeurent. Tandis qu'il y a des choses qui changent. Bon, dans l'univers, il y a les choses qui changent et les choses qui demeurent. Quand vous regardez le devenir, vous ne savez pas à partir du devenir, ce qui est premier. L'origine échappe au devenir. La fin ultime échappe au devenir. Et vous ne pouvez saisir l'origine qu'à partir des principes et des causes de l'être. Là, c'est déjà beaucoup plus coriace, hein. Et c'est très important. Une fois que vous avez saisi ça, vous comprenez tout de suite que la science, les sciences modernes, ne peuvent rien nous dire scientifiquement. Des hypothèses, tant qu'on veut. Le point de vue scientifique, rien nous dire sur l'origine de notre univers. Du vivant, de l'homme, de la famille, rien du tout. Si c'était des hypothèses, des projections hypothétiques à partir de ce qu'on a saisi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça. Une fois que vous avez compris ça, mais oui, vous laissez les savants. Ils ont besoin, voulez-vous. Le savant, comme disait un père, un bon historien, les savants n'ont pas beaucoup d'herbe à brouter. C'était le vieux père Modané qui disait ça. Par le fait même, ils essaient tout le temps de terminer leur science par une vision philosophique. Global, général, qui n'est ni la science ni la philosophie, qui est tout simplement de la rhétorique. Ça a beaucoup chauffé durant le travail intellectuel, alors ça explose. Et c'est devant une explosion. Mais ça n'a pas de réalité, c'est imaginatif. C'est très beau, c'est imaginatif. Ça ne dit rien du réel. Mais c'est très curieux de voir comment les sciences particulières n'ont pas beaucoup d'herbe à brouter. Et par le fait même, au terme, elles dépassent. Oui, on voyait que le père Mandané était un bourguignon. Et sûrement dans sa jeunesse, il avait regardé la vache attachée au poteau. Mais tu as vu ça, hein? C'est très joli. Ça. Une vache attachée avec un poteau. Il faut la laisser plusieurs heures. Au bout d'un certain temps, vous avez un rond magnifique, la tête rasée. La vache a tout mangé. Mais comme la corde ne lui permet pas d'aller plus loin, on voit exactement ce que la corde pouvait atteindre. Puis à côté, l'herbe est restée grande. Mais elle a louché constamment là-dessus. Elle aurait voulu prendre des tours plus grands pour aller plus loin. Non. La science n'a pas beaucoup d'herbe à brouter. C'est une petite expression que j'aime beaucoup, moi, j'ai retenue. Parce que c'est très imaginatif. Et on voit très bien ce que ça fait. Au bout d'un certain temps, quand l'herbe est parfaitement broutée, on louche. On émet une hypothèse. Le physicien l'origine du monde physique. Le biologiste, l'origine du vivant. Et chez Monod, l'origine du vivant, le hasard. Vous croyez que c'est scientifique ? Non, pas scientifique du tout. Donc, il a louché, sans le savoir. Il a dit ça. C'est plus scientifique. Et c'est pas philosophique. Parce que sa science n'a pas beaucoup d'air propreté. Le philosophe, lui, il étudie l'homme. La philosophie étudie l'homme. Et en étudiant l'homme, il étudie l'âme spirituelle, l'esprit. Et l'esprit est infini dans sa recherche. C'est pour ça que la philosophie n'a pas de limite dans sa recherche. C'est merveilleux. Le philosophe, il est libre. La vache n'est pas attachée à un poton. Pas les brouter à droite, à gauche. Librement. Il n'y a pas de limite à la philosophie. Il n'y a pas de limite. Le philosophe peut aller partout. Parce qu'il étudie l'esprit. L'homme, comme tel. La personne humaine. En comprenant que la personne humaine implique une âme spirituelle. Et le croyant, lui aussi, regarde l'homme. Il regarde l'âme spirituelle. Vous voyez ? Je crois que ça nous aide à comprendre comment le savant aura toujours une démangeaison de regarder l'origine de l'univers, l'origine de la vie, l'origine de l'homme, l'origine de l'amour. L'origine de la liberté, et ainsi de suite. L'origine de la famille. Il y a la démangeaison, c'est plus fort que lui. On ne peut pas arriver à faire ça autrement. Le philosophe, lui, il est à son aise. Alors, je vous rappelle ici, pour ceux qui font un peu de philosophie, quand saint Thomas montre comment l'intelligence humaine, l'intelligence philosophique, peut arriver à dévoiler l'existence d'un être premier. Le philosophe dit, à propos de la causalité, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Tandis que le savant dit, on peut remonter à l'infini dans l'ordre des lois. Vous ne pouvez jamais dire qu'une science est terminée. Jamais. Tandis que vous pouvez dire, j'atteins un absolu. Rien n'est au-dessus de l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu. C'est l'absolu. Personne n'est au-dessus. Donc, vous voyez, j'allais dire, c'est un petit critère très intéressant pour bien comprendre le domaine des sciences, de la philosophie et de la foi, de se poser la question, pouvons-nous remonter à l'infini dans l'ordre des causes ? Pouvons-nous remonter à l'infini dans l'ordre des lois ? Dans l'ordre des lois, oui. Dans l'ordre des causes, non. Et dans l'ordre de la foi, il y a un premier. Si ceci que je viens de vous dire est vrai, vous voyez donc que le théologien, doublé d'un philosophe, ce qui est nécessaire pour être un théologien, ne doit absolument pas s'inquiéter de toutes les théories scientifiques sur l'origine de l'univers, l'origine de la vie, l'origine de l'homme, et ainsi de suite. Il dit, seul le philosophe, la métaphysique, peut parler de l'origine du monde physique, de l'origine du vivant, de l'origine de l'homme, de l'origine de la famille, seul. Le philosophe et le théologien. Mais pour pouvoir parler de l'origine, il faut une métaphysique de l'être. Je vous laisse en état d'admiration.